Radio Kapi. Oh, Kapi. Journal présenté par Grace Amzati.
La ministre congolaise des Affaires étrangères, préoccupée par des questions qui touchent la RDC, notamment la trêve humanitaire, le cessez-le-feu violé et l'envahissement des territoires congolais par les rebelles. Ces points étaient au cœur de sa communication spéciale ce jeudi à Kinshasa, devant les corps diplomatiques et représentants des organismes internationaux présents en RDC. Au Nord Kivu, la prison centrale de Kakwangura à Butembo compte à ce jour 1355 détenus, parmi lesquels 151 condamnés. Cette surpopulation carcérale provoque de nombreux cas de maladies et de décès, alerte le député provincial Bienvenu Lutsumbi. Le bourgmestre de la commune de Barumbushi à Kinshasa demande plus de moyens de la locomotion aux autorités urbaines pour résoudre le problème de l'insécurité dû au phénomène Kuluna dans cette municipalité. Christophe Lomami est l'invité de ce journal. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. La trêve humanitaire, le cessez-le-feu violé et l'envahissement des territoires congolais par les rebelles, ce sont là les problèmes évoqués ce jeudi par la ministre des Affaires étrangères dans une communication spéciale devant les corps diplomatiques et représentants des organismes internationaux présents en RDC. Thérèse Kayikwamba Wagner affirme la détermination du gouvernement congolais à faire face à ces problèmes. Elle appelle les Congolais à rester vigilants. Suivez l'extrait de la communication de Thérèse Kayikwamba Wagner au micro d'Étienne Lissoumbou.
Mieux vous prévenir des drames qui pourraient survenir et causer la mort tragique. De milliers de passagers civils des compagnies aériennes internationales et nationales qui desservent ces parties de la République démocratique du Congo, suite aux risques et dangers d'éventuels crash d'avions. Ces actes de trop doivent être condamnés par tous. Ils compromettent gravement la sécurité du transport aérien civil, posant un risque significatif pour tous les vols, y compris les compagnies aériennes commerciales. De plus, le gouvernement congolais se doit d'aviser la communauté internationale que ces actes mettent aussi en danger les missions humanitaires essentielles menées pour soutenir les populations locales victimes de la guerre d'agression rwandaise. Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne fermement cet énième acte d'agression et en violation de la Convention de l'aviation civile internationale de 1940.
Nord Kivu, la prison centrale de Kakwangura à Butembo abrite actuellement 1355 détenus, parmi lesquels 151 condamnés. Cette situation entraîne un surpeuplement de cette maison carcérale, provoquant de nombreux cas de maladies et de décès. C'est ce qu'affirme le député provincial Bienvenu Lutsumbi dans une correspondance adressée au ministre de la Justice le mercredi 7 août. Sadiq Aboubakar nous en parle.
Avec une capacité théorique de 250 détenus, la prison centrale de Kakwangura à Butembo héberge aujourd'hui 1355 détenus, soit au moins 5 fois plus que sa capacité d'accueil. Dans sa lettre au ministre de la Justice, le député provincial élu de Butembo souligne que plus de 90% de ces prévenus relèvent du parquet militaire. Bienvenu Lutsumbi rapporte aussi qu'en raison du surpeuplement, la prison de Kakwangura enregistre un nombre élevé de détenus malades avec une fréquence préoccupante de décès. Près de 50 cas de décès ont été signalés depuis le début de l'année 2024, indique-t-il. Face à cette situation alarmante, le député provincial appelle le ministre de la Justice à s'impliquer pour désengorger la prison centrale de Butembo. À long terme, il suggère au gouvernement d'envisager la construction d'un nouvel établissement pénitentiaire à Butembo, conforme aux standards modernes, tout en tenant compte de la démographie et des réalités actuelles de la région. Toutes nos tentatives pour obtenir la réaction du procureur du parquet près le tribunal militaire garnison de Butembo n'ont pas abouti. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Kapi.
Nord Kivu encore. Au total, 16 détenus de la prison de Munzenze ont recouvré la liberté il y a 2 jours après la visite d'inspection effectuée par le parquet près le tribunal de grande instance de Goma et le parquet près le tribunal d'épée de Nyiragongo au sein de cet établissement pénitentiaire. La libération de ces détenus a coïncidé mardi 6 août avec la visite d'inspection qu'a effectuée la ministre congolaise des droits humains dans cette prison. Un autre objectif de la visite de la ministre Chantal Chambou Mwavita était de s'enquérir de la situation des détenus et de proposer des pistes de solutions pour le désengorgement de la prison. Écoutons à ces propos le directeur de la prison de Munzenze, Serge Kihero, au micro de Gabriel Wamenya.
Sa visite a coïncidé avec une inspection judiciaire du parquet de grande instance, donc sous le leadership du parquet général, et a abouti à la relaxation de 16 détenus préventifs. ils étaient à la disposition du parquet de grande instance ainsi que du parquet près du tribunal de Pélénier-la-Gongo. Non, c'était 16 détenus, parmi lesquels il n'y avait aucune femme. Sa visite a permis de se rendre compte des conditions de vie des détenus afin qu'elle puisse faire un plaidoyer auprès d'autres responsables publics pour l'amélioration des conditions de vie en détention. Le constat qu'elle a fait, c'était qu'elle s'est rendue compte des conditions de vie en détention. Elle a promis d'apporter des solutions aux défis auxquels nous sommes en train de faire face. Elle va rencontrer d'autres responsables publics. Et là aussi, c'était une occasion aussi d'apporter des vivres pour l'amélioration de l'alimentation des détenus, chose pour laquelle nous lui sommes reconnaissantes.
Revenons ici à Kinshasa. Un atelier sur la planification et la révisitation de la loi relative à la protection des droits de l'homme était organisé ce jeudi par l'ASBL, Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme. Cette rencontre a réuni plusieurs acteurs des droits de l'homme qui ont réfléchi sur les prochaines dispositions à prendre. Au cours de ces échanges, quelques experts et artisans des droits de l'homme ont expliqué le souci majeur des acteurs des droits de l'homme concernant cette loi en RDC. Étienne Lissumbu pour le reportage.
Suivant la démarche menée en vue de révisiter cette loi promulguée en 2023 sur les droits de l'homme, Eric Kambalé, chargé du projet de l'ASBL ACE2H, organisatrice de cet atelier, a expliqué le pourquoi de ce rendez-vous.
Et nous avons proposé la correction de certaines dispositions dans cette proposition. Mais malheureusement, curieusement, la proposition a été adoptée comme telle et à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et elle a été promulguée par le président de la République depuis le 15 juillet 2023.
Maître Eric Kassongo, avocat et directeur de l'ONG CODED, a quant à lui souligné quelques inquiétudes décelées dans cette loi.
Dans les dispositions précises que nous avons mentionnées, notamment les articles 7, les articles 11, 26, 27 de cette loi-là, qui consacrent le fait qu'un défenseur doit produire obligatoirement une carte, alors que le législateur lui-même, dans l'article 1er de cette loi-là, dit que les défenseurs, c'est tout individu qui défend ses droits. Comptez les individus qui défendent leurs droits dans le pays, son nombre de combien. Si eux tous doivent produire des cartes, ils doivent aller au ministère de la Justice pour produire des rapports. Vous voyez que c'est un peu ambigu.
Signalons qu'une pétition visant à accélérer la révisitation de cette loi a été signée par toutes les parties prenantes à ces assises.
Autre nouvelle, à Bagnonor Kivu, les agriculteurs du quartier Sayo dénoncent la recrudescence des vols de leurs produits, notamment le cacao et la banane plantain, depuis le début des récoltes. Cette situation fragilise les agriculteurs qui estiment que les autorités ont échoué à protéger les civils et leurs biens. Les représentants du quartier Sayo reconnaissent cette problématique et proposent une solution, l'identification de tous les agriculteurs et de leurs champs. Marc Marofimbo, des retours de la zone, nous explique.
Des vols de produits agricoles sont signalés dans les 11 cellules du quartier Sayo. Les agriculteurs accusent les autorités locales d'avoir délivré des documents d'identification sans consulter les leaders communautaires qui connaissent mieux les agriculteurs et leurs champs. Un cultivateur rencontré ce matin à Sayo a déclaré
« Même un voleur avec 19 francs peut se présenter avec des cartes et obtenir un document sans que son champ ne soit vérifié. Ils auraient dû responsabiliser chaque chef de cellule pour qu'il identifie les cultivateurs de son entité. »
Le chef du quartier Sayo, Moïndo Nzanzo Flavien, reconnaît cette situation. Il indique que des mesures sont déjà en cours pour mettre fin à ces phénomènes de vol.
À passant dans ton chat, tu découvres ta banane plantée volée. J'ai déjà fait rapport aux autorités pour qu'elles prennent des mesures. Cependant, le système d'identification des agriculteurs devrait réduire ces problèmes, car les fiches d'identification mentionnent également les produits cultivés.
Il est important de noter qu'une grande variété des produits agricoles et produites dans les quartiers Sayo, notamment les cacao, l'huile de palme, l'arachide, le maïs, le manioc, l'ananas et la banane platan. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Pendant ce temps, les entrepreneurs du Sud Kivu ont désormais un espace propre à eux, des locaux qui permettront à ces derniers d'exposer et de vendre leurs produits locaux. C'est l'œuvre du député national Olive Moudekereza qui désire booster ces jeunes entrepreneurs. Ces agripreneurs font face à un certain nombre de défis, notamment celui du manque d'espace. C'était le 7 août à Bukavu. Rachel Kessimbangu signe ce reportage.
Tous les jeunes viennent avec leurs produits exposés et vendent. Et tout le monde vient acheter là-bas.
La maison entrepreneuriale du Kivu est située dans le bâtiment Olive, en face de la régie des eaux, dans la commune d'Ibanda. La clé de l'espace a été remise au RADEC, réseau des agripreneurs pour le développement du Congo. Solange Kwinja, présidente du RADEC.
On a commencé des plaidoyers, on toquait par-ci, par-là. On croyait que la solution à notre problème devrait provenir du gouvernement congolais ou soit d'un partenaire étranger. Mais aujourd'hui, c'est un citoyen congolais, un mentor, un entrepreneur comme nous qui vient de nous octroyer cet appartement gratuitement.
Pour Olive Moudekiriza, c'est une manière pour lui d'encourager les jeunes à l'entrepreneuriat.
Vous savez, les jeunes n'ont pas de moyens. Il faut encourager les jeunes pour entreprendre. Il faut donner des goûts aux jeunes d'entreprendre. Et les jeunes décident qui vont. Pour les aider, il faut avoir leur espace. Il faut promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Moi-même, je suis un entrepreneur. J'étais présent à la FEC pendant plus de 10 ans. Je sais de quoi je parle pour l'entrepreneuriat. Et le site qui vous est le modèle de l'entrepreneuriat. Quand ils regardent les produits ici, présentés par les jeunes, vous pouvez les féliciter.
Là, au moins 50 entreprises, membres du RADEC, seront logées dans cet espace. Bukavu, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
Par ailleurs, la section genre de la MONUSCO et l'ONG Bissoba Sitelema ont organisé hier ici à Kinshasa une conférence exposition dénommée Talents et l'innovation des femmes pour le développement en Afrique, contexte de la RDC. C'est en marge de la journée de la femme africaine célébrée le 31 juillet. L'activité met en lumière l'apport du travail des femmes dans le processus de développement du continent et de la RDC en particulier. Le compte rendu de Miradim Fouengi.
Pour les intervenants à cette conférence, les travaux manuels de la femme constituent un pilier essentiel de l'économie d'un pays. Ils réduisent le taux de chômage, ils contribuent à la sécurité alimentaire et génèrent des revenus. Priscilla Masenge, chargée de communication de l'ONG Bissoba Sitelema, revient sur l'importance de cette conférence.
Il y a des femmes qui œuvrent dans les différents domaines dans notre pays. Leurs œuvres contribuent positivement à la consolidation de la paix et au développement, mais restent un peu dans l'ombre. Nous avons voulu montrer à tout le monde les travaux que les femmes réalisent.
Irène Moussoune Kapenga, une participante à cette conférence, cite quelques défis auxquels les femmes font face.
Le grand défi qui bloque la femme à l'épanouissement aujourd'hui, c'est le défi sécuritaire. C'est aussi le défi lié au financement. Mais il y a aussi le poids de la tradition.
Princesse Ngamba, ambassadrice de la culture coiffure traditionnelle, appelle les femmes à l'unité.
L'unité doit être au centre de tout ce que nous faisons pour la paix et l'harmonie, surtout le développement de notre pays. L'unité fera en sorte que nous puissions réduire l'écart qui est entre l'émancipation de la femme et les stéréotypes.
Cette activité marque le 5e anniversaire de l'ONG Bissoba Sitelema.
Miradim Fouengi sur la fréquence de la paix. Justice, peine de mort, arrestation immédiate des prévenus défaillants, confiscation de tous leurs biens sous séquestre et paiement d'une amende $1 milliard à la République pour les préjudices subis. Ce sont là les sanctions pénales infligées à Corneille Nangaa et consorts par la cour militaire de Kinshasa-Gombe à son audience publique de ce jeudi à la prison militaire de Ndolo. 5 des 26 prévenus présents ont été reconnus coupables de trahison et de participation à un mouvement insurrectionnel. Nangaa et ses compagnons en fuite ont été reconnus coupables des crimes de guerre et des deux préventions à charge des prévenus en détention, sauf la trahison pour les étrangers. Ils ont 5 jours pour interjeter appel contre cette condamnation. Et au sujet d'élection des membres du bureau définitif du Sénat ce samedi, la police met en garde toute personne non concernée par ces scrutins de ne pas s'approcher du palais du peuple qui sera très sécurisé. C'est là pour parer à toute éventualité, déclare le commandant de la police de Kinshasa. Il a dit ce jeudi à l'occasion de la présentation des plus de 200 personnes présumées fauteurs des troubles lors des échauffourées au palais du peuple mardi en marge des dépôts de candidatures au Sénat.
Actualité internationale.
Le Ghana, premier producteur d'or sur le continent africain, vient d'inaugurer ce jeudi, 8 août, à Accra, sa première raffinerie. Un chantier enfin abouti après plus de 4 ans de travaux. De quoi raffiner? Non plus à l'étranger comme c'était le cas jusqu'à maintenant, mais bien localement, la totalité de ces plus de 100 tonnes extraites légalement chaque année de ces mines. Un pas décisif vers l'indépendance économique du pays selon ses dirigeants. L'ancien président de la Confédération africaine de football CAF, le Camerounais Issa Hayatou, s'est éteint ce jeudi 8 août à Paris à la veille de ses 78 ans.
l'invité.
Le bourgmestre de la commune de Barumbu, ici à Kinshasa, appelle ses administrés à s'impliquer dans la gestion de cette entité via les conseillers municipaux. Invité des radios Capi ce matin, Christophe Lomami demande également aux populations de sa municipalité de s'adonner aux travaux de salubrité pour rendre leur environnement sain et s'abstenir des maladies des mains sales. Il sollicite en outre plus de moyens de locomotion de la part des autorités urbaines pour résoudre la question de l'insécurité due au phénomène Kuluna dans la commune de Barumbu. Christophe Lomami s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour, monsieur Christophe Lomami Lankoy.
Bonjour, mon frère journaliste.
Pouvez-vous nous donner les bilans de votre gestion de près de 10 ans à la tête de la commune de Barumbu?
Je ne vous dirai pas à ce jour que le bilan est totalement positif. Mais il y a quelque chose qui est déjà fait. Vous pouvez vérifier quelques réalisations depuis que nous sommes là. Si je vous dis combien de caniveaux qu'on a tirés, vous allez vous étonner.
Monsieur le bourgmestre, ce n'est pas un secret. Vous pouvez le dire, combien de caniveaux déjà curés?
Et pas moins de quarantaine. Malheureusement, si vous allez aujourd'hui pour visiter, vous allez faire les mêmes constats que nous, si comme on n'a rien fait. Parce que nous, on tire, on évacue, et par après, c'est la même population qui va demain va commencer à crier qu'on ne fait rien. Vous allez trouver que tous ces caniveaux-là, c'est comme on n'a rien fait.
Il se pose un problème de suivi, monsieur le bourgmestre.
Oui, ça peut être aussi un problème de suivi, mais également un problème de conscience de la population. Parce que le suivi, ce n'est pas tout simplement à moi, le bourgmestre, ou bien à mes agents de faire le suivi. Tout celui qui habite Barumbu est dans ses droits de faire le suivi. S'il y a un problème d'inondation, comme nous venons de le connaître l'année passée, ça va tout simplement attaquer les bourgmestres ou bien les agents. Non, c'est toute la population. Tout ce que nous sommes en train de faire, il faut également l'implication de la population. Parce que dès que la population va prendre conscience, gérons ensemble, je suis sûr que tout ce que nous allons commencer à faire, il n'y aura pas des effets négatifs comme nous sommes en train de le connaître aujourd'hui.
Comme plusieurs communes de la capitale, Barumbu fait aussi face à l'insalubrité. Quelle est votre politique pour réguler ces secteurs?
Par rapport à cette question, lorsque vous avez des moyens, vous pouvez travailler et faire voir aux gens que j'ai déjà fait quelque chose. Comme les moyens ne suivent pas, ici je parle des moyens, soit financiers, qui peuvent aider ou accompagner la politique de chaque bourgmestre, soit dans sa commune. On est là, ni salaire, ni prime, ni rétrocession, nous allons travailler comment? Mais avec des petites taxes que nous gérons dans nos communes, nous nous organisons pour quand même faire quelque chose. Mais il faut qu'il y ait des moyens pour que nous essayons de faire quelque chose.
La population de votre municipalité continue de déplorer le phénomène Kuluna. Alors, qu'est-ce que vous leur apportez comme réponse?
Le phénomène Kuluna, hier, je peux dire que c'était soit à un taux de 100% où on était à tout moment dérangé parce que nous avons 9 quartiers. Mais on peut vous appeler à la minute que dans 3 quartiers, il y a Kuluna. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je ne dis pas qu'on a réduit à 100%, non, non. On peut passer même 2 jours, ça qu'on nous appelle qu'il y a Kuluna. Mais ça continue. À cette question, nous demandons également à notre autorité, l'actuelle autorité de la ville de Kinshasa, monsieur le gouverneur Daniel Bumba, de mettre également les moyens à la disposition de la police. Parce que s'il n'y a pas la mobilité, ça pose toujours problème pour que les policiers puissent intervenir un peu rapidement quand il y a un dossier de Kuluna ou bien un autre dossier d'insécurité au niveau de nos communes.
Monsieur le bourgmestre, quelles sont vos perspectives d'avenir?
Au niveau de la commune de Barumbu, nous voulons que le travail, surtout d'assainissement, soit vraiment efficace. Nous voulons également que la présence des policiers pour dissuader la population et surtout les inciviques que nous appelons les Kuluna soit permanente au niveau de notre juridiction.
Monsieur le bourgmestre Christophe Lomami Lankoy, Radio Capi vous dit merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je profite à remercier la Radio Capi parce que vous êtes suivi de partout en République démocratique du Congo.
Merci à notre invité qui répondait aux questions de Blaise Ndongala Mayanda. Ce journal touche à sa fin. Il a été coordonné par Jude Mister Bilanda et mis en onde par Jean-Claude Nsiala. Mwana Makengo Nsualu. Merci.